le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois de juillet 2007, selon Xavier Lande.
Avant toute chose, je voudrais commencer. J'étais invité par Nicolas Lévesque à l'émission et c'est le principe. Le principe, je l'ai trouvé assez intéressant et quelque chose qui m'a marqué en tant que philosophe dans l'intitulé de l'émission, c'est l'ordre des mots. C'est l'ordre des mots et les mots qui ont été choisis. Donc, sans me livrer à une explication philosophique, sans entrer dans des détails qui pourraient se révéler obtus. Ces trois mots me semblent être riches de potentialité, dans le sens où, si on prend le premier, qui est le dehors, cela fait référence pour un philosophe à l'environnement, à ce qui relève de l'expérience sensible. C'est un sujet qui a été débattu en philosophie de la perception depuis des siècles, et qui a donc, pour un professionnel de la philosophie, une certaine résonance. Le deuxième terme, l'impossible, c'est peut-être le caractère irréductible de certaines expériences, ou tout au moins de l'objet de l'expérience. Et pour le dernier terme, le moi, c'est le sujet de l'expérience, celui qui ressent. Et c'était assez intéressant, je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'ai lu le sujet, et remonté à la surface, et vous allez voir la relation avec ce que je vais vous dire, avec mon mois de juillet, j'ai trouvé un écho dans les lectures que j'ai pu faire quand j'étais surtout adolescent, et avec un auteur en particulier, Albert Camus, qui a eu une importance première dans ma formation intellectuelle. Et pourquoi j'ai vu ce, en quoi je vois ce rapport avec Albert Camus, en quoi l'intitulé de l'émission me fait penser à Albert Camus, c'est que le deuxième terme, l'impossible, me semble être la connexion, ou tout au moins tel que l'intitulé de l'émission semblerait le suggérer, être la connexion entre le premier terme, le dehors, et le troisième, le moi. Dans la philosophie d'Albert Camus, philosophie de l'absurde qui a été tant discutée, qui a quasiment galvauté, on pourrait considérer ainsi, ce qui caractérise la relation de l'homme au monde, c'est l'absurde. Et ça caractérise une relation dans le sens où, pour Albert Camus, dans le mythe, c'est très bien expliqué dans le mythe de Sisyphe notamment, l'absurde n'est pas contenu dans l'individu, ce n'est pas l'individu qui est absurde, ce n'est pas plus le monde qu'il est, c'est cette relation entre un homme ou une femme qui interroge un monde qui ne répond pas. Et il semblerait que dans l'intitulé, ce qui m'a marqué tout au moins, ce que je trouvais intéressant, c'est cette induction d'une réponse dans l'ordonnancement des trois termes. Le deuxième terme faisant la jonction entre le premier et le troisième. Donc, à savoir, si nous allons continuer sur l'absurde, je pense pas. Mais tout au moins, ce qu'il y a à retenir de la philosophie de Camus, tout au moins, moi, ce que j'en retiens au quotidien, sans forcément penser à Albert Camus, au philosophe d'Algérie, c'est la notion d'étrangeté. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, et ce qui m'a intéressé durant ce mois de juillet, ce dont j'ai fait l'expérience durant ce mois de juillet, c'est l'étrangeté. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le mois de juillet, je l'ai passé dans un pays d'Europe de l'Est, qui s'appelle la Lettonie, pour ceux qui n'arrivent pas très bien à situer ce pays. Il est coincé entre l'Estonie au nord, la Lituanie au sud, et la Russie à l'est, et donc est bordée par la mer Baltique. Mer Baltique qui ouvre après sur la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne, la Finlande. Donc j'ai passé mon mois de juillet en Lettonie, et qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois de juillet, puisque le principe de l'émission consiste à raconter son mois de juillet, à raconter l'actualité du mois tel que on l'a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé, vous me direz, vous pourriez me demander de très intéressant en Lettonie durant le mois de juillet. Beaucoup de choses et pas grand-chose, en fait. Beaucoup de choses qui sont intéressantes d'un point de vue local pour le pays, et peut-être pas grand-chose qui pourrait intéresser un auditoire plus large. Mais je voudrais plutôt utiliser cette expérience pour faire un retour. En à peu près à la moitié de mon intervention, je ferai un retour sur ma vie au Canada, dans mon pays d'élection, et voir en quoi cette expérience du décentrement, c'est-à-dire cette expérience de l'immigration temporaire, permet de jeter peut-être de pouvoir jeter un éclairage nouveau sur une situation à laquelle on s'habitue trop facilement, cette situation routinière, parce que ma vie à l'année est au Canada, donc on devient rapidement habitué à un certain nombre de choses, de pratiques, d'institutions qui nous semblent aller de soi, et quand on prend un peu de distance, quand on prend un peu le temps de réfléchir à tout ça avec un œil nouveau, on se rend compte de la chance que l'on a peut-être, mais on se rend compte surtout de la spécificité de notre vie à l'intérieur et de toutes les potentialités qu'elle peut contenir. Donc, je voudrais vous parler de cette expérience d'étrangeté. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi ça a été. Je me suis senti comme un étranger. Bah, tout d'abord parce que j'étais dans un pays dont je ne parlais que quelques mots, dont la langue je la maîtrisais à peine, qui est le letton, un pays qui, bien que j'y ai passé 4 mois en 2006, continue à m'étonner, continue à me surprendre. Certains pourraient dire que c'est une différence culturelle, un choc culturel. Donc je vais vous raconter un peu ce pays pour placer l'arrière-fond, le décor de mon mois de juillet, et après je rentrerai un peu plus profondément. Donc j'ai habité pendant 3 mois à Riga. Riga qui est une ville magnifique. Il faut l'imaginer au fond de la baie du même nom, la baie de Riga, qui communique avec la mer Baltique. La ville n'est pas au bord de la mer Baltique. Elle est à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Elle est traversée par le Daugava, qui est le principal fleuve letton. Et donc, grosso modo, la ville est partagée en deux parties identiques, la rive gauche et la rive droite, par ce fleuve. La ville est très surprenante. Pourquoi ? Parce que beaucoup de styles architecturaux se côtoient. Elle est d'une richesse du point de vue de l'urbanisme d'une richesse assez surprenante. La partie qui est à droite, la partie sur la rive droite de Daugava, commence avec le vieux Riga. Le vieux Riga, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un enchevêtrement de petites rues avec des vieux bâtiments. La ville a 8 siècles. Les bâtiments du vieux Riga, même si ce sont les plus vieux de la ville, sont un peu plus récents. C'est-à-dire que ça remonte, il me semble, au 16e siècle. Pour les plus anciens. Donc vous avez ce petit enchevêtrement de rues, ces clochers très si caractéristiques avec une forme légèrement bombée, et vous avez toute cette activité qui caractérise nombre de pays d'Europe de l'Est qui ont recouvert leur liberté politique il y a 15 ans de cela. Peut-être trop d'activité, parce que ce qui est reproché par les habitants de Riga et par les Lettons d'une manière générale, pas au quartier du Riga, mais à la population qui hante ces quartiers, c'est d'être une population peut-être un peu trop touristique. Donc, quelque part, il y a ce sentiment de désappropriation, du fait de se faire enlever son vieux Riga. J'ai pu discuter avec des Lettons qui me disaient que il y a de ça 10 ans, le vieux Riga, c'était leur quartier. C'était par les dames de Riga et dames de la Lettonie. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Il y a des clubs de danseuses nues quasiment à tous les coins de rue, des bars. Vous avez des boîtes de nuit, donc toutes les institutions de loisirs qui caractérisent une société industrialisée, et donc qui, quelque part, peut-être enlève un peu de charme à ce quartier historique. Donc vous avez le vieux Riga qui est en bordure de la Daugava, et qui est en fait circonscrit par un canal. Vous avez un canal qui borde et qui marque la limite entre le vieux Riga et ce qu'on appelle le centre. Le quartier central de Riga, qui est qui est lui aussi réserve des surprises de nombreuses surprises. C'est-à-dire que vous avez toute une partie du centre de Riga, centre-centre, c'est-à-dire centre moins le vieux Riga, qui est un quartier art nouveau, qui est comparable à celui d'une autre capitale européenne, Bruxelles, et qui est l'œuvre en partie, bon, de nombre d'architectes, mais en partie pour la rue Albert Ayala, qui est l'œuvre de Michael Eisenstein, qui est le père ou le grand-père du réalisateur, de Sergueï, qui habitait Riga et qui a développé dans ces rues, dans ce quartier, qu'on appelle le quartier du centre tranquille, qui a développé toute une architecture ornementée assez impressionnante, avec des sculptures de visages, des cris, des thèmes floraux, des lions, des sphinx. Et c'est assez époustouflant. Pour vous dire, je travaillais dans ce quartier, j'ai travaillé 4 mois et 3 mois et demi dans ce quartier, donc un peu plus de 7 mois, et à chaque fois que je prenais la rue, bon, ça ne signifie pas qu'à chaque fois je faisais attention à cette, pour reprendre les thèmes de cette émission, à ce dehors, à cet en dehors. Mais les rares fois, parce que on vient, et c'est ce que je vous disais, le problème c'est qu'on devient trop vite habitué à ce que l'on côtoie au quotidien. Et c'est en ça où se décentrer, provoquer le sentiment d'étrangeté, faire l'expérience de ce sentiment d'étrangeté permet de retrouver ces yeux d'enfant que l'on peut porter sur le monde est une ouverture que on laisse au monde pour se laisser surprendre, hein, par ce qui nous entoure. Donc, même si au final, nous ne pourrons jamais adhérer totalement, l'adhésion au monde environnant, à l'expérience sensible est impossible. Il y aura toujours une part irréductible dans l'expérience que l'on fait de ce qui nous entoure, dans l'expérience que l'on fait d'une ville. Mais tout au moins, cette expérience de l'étrangeté est une expérience qui est très enrichissante d'un point de vue personnel. Donc, pour revenir à mon propos, j'ai travaillé dans cette rue Albert Ayala, et même si je ne faisais pas attention à l'architecture tous les jours, parce qu'on en devient pas désabusé, mais on y est habitué, on a ces référents visuels. Lorsque l'on marche, on regarde à peu près tout le temps les mêmes choses, ou tout au moins on est perdu dans nos pensées, donc on est moins réceptif à ce qui nous environne. Mais les rares fois où j'ai fait l'effort de me réintéresser à cette rue, j'étais surpris. J'étais surpris pourquoi ? Parce que je redécouvrais un Riga, je redécouvrais tout au moins une partie de Riga, et j'étais surpris parce qu'il y avait des sculptures, et pourtant j'ai pris les façades en photographie, en long, en large, en travers, je peux vous l'assurer, mais je redécouvrais des motifs d'ornementation, je redécouvrais des entrées, je redécouvrais, ce qui est peut-être plus important, je redécouvrais des émotions, et c'était une expérience, comme j'ai pu vous le dire, totalement fascinante. Donc, une fois que vous sortez du centre de Riga, qui est assez petit, qui se fait à pied d'un bout à l'autre en l'espace peut-être d'une demi-heure, trois quarts d'heure, vous arrivez dans des quartiers, que ce soit sur l'autre rive de Hadaugava ou plus loin quand vous quittez le centre, vous arrivez rapidement dans des quartiers, il y a aussi des beaux quartiers, il y a aussi des quartiers typiques, des quartiers laitons avec des maisons en bois qui ressemblent, que je ne peux qualifier moi en tant que Européen de l'Ouest que de dacha, parce que ça correspond à l'image que je pouvais avoir des dachas véhiculées par notamment le cinéma. Hormis ces quartiers très caractéristiques, très caractéristiques de l'architecture traditionnelle lettonne, il y a également des quartiers de type soviétique. Alors, quand je dis soviétique, ça recouvre, et j'ai découvert ça également lors de mon deuxième séjour, parce que je me suis pris et je me suis piqué d'architecture. Donc, j'en discutais avec un ami qui est professeur à la Riga Stradins University. J'en discutais avec lui, et en fait, il s'avère qu'il y a un certain nombre de quartiers on peut faire dans Riga, un peu, si vous voulez, on peut traverser les époques, les différentes époques de l'URSS, puisque la Lettonie était une ancienne république de l'URSS, au même titre que l'Estonie et la Lituanie. Et donc, vous avez un style stalinien, monumental, qui va côtoyer un style khrouchtchevien, plus fonctionnel, d'immeubles de 5 étages. Pourquoi pas plus de 5 étages ? Parce que Ça venait d'études qui avaient été menées en Allemagne de l'Est, et on s'était rendu compte que la limite pour des immeubles sans ascenseur était 5 étages. Au-delà, ça devenait problématique, inconfortable pour les habitants du dernier étage. Donc, vous avez une diversité architecturale qui frappe le visage, qui frappe l'imagination. Et c'est lié à cette... J'ai fini pour une raison par décrire... J'ai fini par le style soviétique, ma description, parce que ça a une raison très précise. C'est que j'ai pu rencontrer... Là, on sort de l'expérience purement sensible, l'expérience, le rapport qu'on peut avoir avec des bâtiments, pour entrer dans le rapport que l'on a avec des gens. Et j'ai été très surpris... J'étais très surpris parce que j'ai rencontré un certain nombre d'expatriés, des Français, des Canadiens à Riga. Et puis, je suis devenu intime avec un certain nombre d'entre eux. Et est venue la question, au bout d'un moment, pourquoi nous avions choisi la Lettonie? Qu'est-ce qui nous a tiré là-dedans? Et pour certains avaient beaucoup voyagé, c'est-à-dire avaient passé 1 ou 2 ans en Pologne, 3, 4 ans en Yougoslavie, dont une personne que j'ai en tête durant le conflit yougoslave, 3-4 ans à Moscou, en Russie. Et donc, poser la question, parce que nous sommes à peu près tous de la même génération, hormis quelques personnes qui sont de générations précédentes, mais nous sommes à peu près tous de la génération des trentenaires, ou de ceux qui s'en approchent, ou de ceux qui ont à peine dépassé le cap. Et nous sommes interrogés, nous avons discuté pour savoir quelles étaient les raisons qui nous avaient poussés à choisir ces pays, à y aller, puisque c'est le résultat d'un choix. Des fois, c'est un peu le résultat du hasard, mais quand vous y restez 2-3 ans, on peut plus dire que le hasard est la principale motivation au fait que vous restiez dans ces pays. Donc, on a fait une séance, si vous voulez, de thérapie collective. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce qui nous attire là-bas, c'est ce sentiment d'étrangeté. Je vais être beaucoup plus précis, c'est que pour la génération des trentenaires, nous avons été élevés, je connais pas assez bien, malgré le fait que cela fasse 4 ans que j'habite au Canada, je connais pas assez bien les cours d'histoire, l'histoire canadienne, pour savoir si ça peut s'appliquer au Canada ou au Québec, mais tout au moins pour l'Europe, c'est le cas. On a été éduqué, élevé dans une Europe divisée. C'est-à-dire que moi, je me souviens parfaitement, notamment d'un repas familial durant lequel mes parents, avec un air très sérieux, très grave, me disaient que l'Europe n'était pas unifiée, n'était pas unie, qu'il y avait 2 Europes, et que ces 2 Europes étaient séparées par un mur de fer, un rideau de fer. Et que de l'autre côté, on pouvait être emprisonné ou mourir pour ses idées. Que l'on n'était pas libre d'exprimer son mécontentement, ses remarques, ses critiques, ou même interroger simplement les pratiques de l'État ou la justice de la société, et que cela pouvait vite devenir dramatique si on prenait de telles libertés. Et donc, en fait, je pense que, pour faire simple, pour pas trop s'appesantir sur la question, je pense que ce que l'on cherche, hormis ce sentiment d'étrangeté que vous pourriez, de décentrage personnel que l'on peut ressentir dans n'importe quel pays, à partir du moment où, si vous voulez, l'écart culturel est assez important, ce qui nous a attirés avec l'Europe de l'Est, c'est une recherche, ce qui nous a motivés, c'est une recherche du temps perdu. C'est quelque part, quand le mur de Berlin est tombé, nous avions tous, c'était en 1989, quand le bloc soviétique a implosé, c'était en 1991, nous avions tous aux alentours de 14, 15, 16, 17 ans, et nous nous sommes retrouvés en pleine adolescence, ou au début de la fin de l'adolescence, si vous me permettez cette expression, à être privés d'un horizon qui était le nôtre, qui était celui d'une Europe divisée, et d'une opposition très franche, très claire, et quelque part très rationnelle entre 2 idéologies. Le communisme d'un côté, et, si vous voulez, le capitalisme de l'autre. Et donc, ce que nous allons chercher, ce que je pense, aller chercher, c'est des bouts. C'est une recherche impossible. Des bouts de ce passé soviétique, de ce passé communiste. Et je suis parti à la recherche, et nous sommes, d'une manière personnelle, nous partons à la recherche de raisons. Pourquoi, Premièrement, quelle a été la vie des gens qui y habitaient en URSS et puis plus généralement dans le bloc communiste. Et puis, deuxièmement, les raisons de l'effondrement. Et savoir, et si vous voulez, peut-être qu'il y a cette volonté aussi de la part, je ne sais pas si elle est présente chez les plus jeunes générations, mais de réduire cette distance entre plus le moi, le nous, européen de l'Ouest, et ce dehors, ce qui était ce dehors de l'Europe. Puisque l'Europe de l'Est, ce qui est devenu la République tchèque, et la Slovaquie, qui était la Tchécoslovaquie, la Roumanie, était le dehors, l'extérieur de l'Europe. Et ça l'a été, pour simplifier, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1991. Ça l'a été pendant une très longue période, 45 ans, quasiment 50 ans. Donc, c'est peut-être aussi pour ressentir ce que nous sommes partis peut-être à la chasse d'une parcelle d'histoire qui est en train de s'enfuir, de s'éteindre. Même si des problématiques, des questions, des thématiques restent propres à ces pays-là. Par exemple, on pourrait citer la transition démocratique ou la post-transition démocratique. Donc, ça a été une expérience très enrichissante. Et en quoi c'est intéressant, j'ai parlé en tout début, lorsque ma voix a surgi après la flûte traversière, je vous disais quasiment tout de suite après que j'allais faire un retour, que ce séjour en Lettonie, qui est très surprenant, avec dans un pays avec une langue qui est, je vous l'ai dit, différente, qui est une langue qui n'est parlée que par un peu plus de 2 millions de locuteurs, qui est le letton, qui appartient à la famille balte, avec le lituanien, ce sont les deux seuls représentants de la famille balte, donc des langues très minoritaires, dans un pays avec des us et des coutumes qui parfois sont empreints de traditionnalisme, d'autres fois sont empreints de ce passé soviétique, des réflexes soviétiques. Je vous les détaillerai pas lors de cette émission, mais je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc, je vous l'ai dit en tout début, cette expérience, ce dehors, cette expérience dans un dehors qui est devenu mien pendant 3 mois, qui était Riga, m'a permis un retour réflexif sur ce qui était devenu un dehors pendant 3 mois, qui était le Canada. Un retour réflexif sur mon pays, ma province d'élection, de résidence, qui est le Québec, et mon pays d'élection, de résidence, qui est le Canada. Donc, en quoi c'est intéressant? Quelles ont été, pendant ce mois de juillet, mes impressions, mes pensées par rapport à ça? Surtout que j'ai quitté la Lettonie début août, donc quasiment à la fin de juillet. J'ai clôturé le mois de juillet quasiment en clôturant mon séjour en Lettonie. Et le Canada, le Québec et Montréal étaient très présents dans mes pensées, car il ne s'est pas passé une journée sans que je réfléchisse, sans que me reviennent à l'esprit des images de Montréal. Des images de Montréal, des images de gens que je connais ici, des images en tant que philosophe politique, des images, puis surtout des échos, des débats qui ont débuté un peu avant juillet et qui se poursuivent encore maintenant. Donc, qu'est-ce que m'a apporté ce retour réflexif? Une première chose, c'est sur la démocratie. La Lettonie a une expérience en tant que pays. Si on considère la Lettonie en tant qu'entité, nation, pays, je vous laisse État, je vous laisse compléter la phrase. La Lettonie a une expérience de l'indépendance très courte. Elle a été indépendante entre 1918 et 1940. Avant d'être occupé par les Russes, après par les Allemands et à nouveau par les Russes, ce qui a donné lieu à des exactions innommables. Et elle est à nouveau indépendante depuis 1991. Donc, c'est un pays qui est très jeune, qui a une pratique, ce qui est reconnu par les acteurs sur place, par les professeurs, les intellectuels, qui a une expérience de la démocratie qui est très courte. C'est-à-dire, vous additionnez la partie dans l'entre-deux-guerres avec celle depuis 91, et puis vous arrivez à un total à peu près d'une quarantaine d'années d'expérience démocratique. Et ce problème, et ce pays fait face à un certain nombre de problèmes qui ne lui est pas particulier, Et si je dis ça, ce n'est pas pour critiquer, ni pour tenir cette position du juge, qui est très facile, c'est-à-dire de regarder les choses de haut et de donner des leçons. C'est simplement, je me fais l'écho d'un certain nombre de réflexions, de remarques, de constatations que font nombre de gens sur place, qui travaillent à l'université ou dans des ONG, etc. Ou plus simplement des gens intéressés par la vie intellectuelle et politique de leur pays. Et donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que la démocratie n'est pas un acquis. Chose qui peut paraître banale, mais que l'on a tendance à oublier. C'est-à-dire que la Lettonie fait face, comme d'autres pays, je le répète, à un certain nombre de poussées provenant de minorités, puisque la majorité, le grand problème de la Lettonie, c'est que la majorité qui a des idées plutôt libérales est silencieuse, ne se mobilise que très peu. Et donc, ce que l'on entend dans l'espace public, dans les médias, dans la rue, c'est toute la frange minoritaire extrémiste. Raciste, nationaliste, trouver tous les bons qualificatifs, tous les bons mots qui pourraient servir à définir cette minorité. Un exemple pour la Gay Pride, l'année dernière, la Gay Pride, qui s'est tenue comme elle se tient dans d'autres pays, ou comme elle se tient à Montréal, comme elle se tient à Paris, consistant à un défilé dans les rues, avec une présence policière minime, les participants à la Gay Pride ont été littéralement agressés physiquement et verbalement par des manifestants homophobes, appartenant notamment au collectif No Pride. Et donc cette année, j'ai couvert cette Gay Pride pour le compte de l'ONG, pour savoir un peu ce qu'il en était, s'il n'y avait pas de débordement, et j'étais surpris. On a parqué la Gay Pride, on a parqué la manifestation dans un parc qui est entouré d'une barrière, avec deux rangées de policiers, une rangée de policiers femmes à l'intérieur du parc, et une rangée de policiers masculins à l'extérieur. Et donc, soi-disant pour des raisons de sécurité, mais on ne me fera pas croire que la sécurité d'une manifestation dans un pays démocratique ne peut pas être assurée, surtout quand il s'agit d'une minorité de troubles faits, d'intolérants. Donc, soi-disant, c'était pour des raisons de sécurité, mais on pense, cette opinion est peut-être documenté, peut-être argumenté, et à de solides raisons, il est fort probable que cela se soit fait ainsi pour étouffer dans l'œuf toute future Gay Pride. C'est-à-dire cantonner dans un parc, dans un petit parc, tous les participants à la Gay Pride, et puis les convaincre plus ou moins que il n'y a pas d'avenir à Riga pour pareil événement dans le futur, dans un futur tout au moins proche. D'une manière plus générale, il y a un fort déficit de débat public en Lettonie, de débat public entre intellectuels, entre universitaires. C'est dû en partie à ce passé soviétique. C'est dû en partie au fait qu'une bonne partie des professeurs qui enseignent en Lettonie sont issus, ont reçu leur formation durant l'ère soviétique. C'est pas une tare en soi, mais cela peut si la transition démocratique ne se fait pas totalement dans les esprits, cela peut conduire à la réactivation ou le fait de ne pas abandonner un certain nombre de réflexes soviétiques qui avaient cours durant l'URSS. Et donc, il y a vraiment un déficit de débat. Il y a un déficit de figures publiques qui seraient prêtes à prendre en charge une partie du débat, tout au moins à prendre en charge le fait de lancer le débat. Et il y a un manque, a posteriori, d'échanges d'arguments, d'échanges intellectuels entre différentes options, entre différents bords politiques. Et tout ça me fait penser à certaines politiques qui peuvent être menées ici au Canada, ou plus précisément au Québec. Des politiques de formation universitaire. Pour être plus précis, des politiques qui consistent à réduire les ressources des sciences humaines et sociales. Je pense pas que ce soit au niveau social. J'ai quand même des réticences d'une manière générale à parler à prendre une perspective collective sur les questions, mais là je pense que cela s'impose. Il m'apparaît peu judicieux d'opérer ce choix au niveau d'une société. Pourquoi? Parce que par les ressources que l'on fournit aux sciences humaines et sociales, ce que l'on fait, c'est que l'on forme des esprits critiques. L'on forme pas forcément des professionnels, des spécialistes. Parce que parmi les étudiants qui sont actuellement et qui seront à l'avenir ou qui sont passés par histoire, psychologie, sociologie, philosophie, peu se destinent à exercer dans ce champ stricto sensu. Pour être plus précis, peu se destinent à devenir professeur ou chercheur. Mais tout au moins, en investissant d'une manière conséquente, en balançant bien entendu ces investissements avec ce que l'on juge nécessaire d'allouer à d'autres disciplines, aux sciences fondamentales, aux sciences appliquées, mais en allouant une somme honnête, des ressources honnêtes à cette formation, aux formations en sciences humaines et sociales, on forme des citoyens, des futurs citoyens, on forme l'esprit critique, on forme des professionnels qui vont... Ce qu'on va leur demander, c'est d'être, ce qui est un luxe pour une société, et j'ai pu le voir en Lettonie, d'être la conscience, la bonne conscience, parfois, et très souvent la mauvaise conscience d'une société. C'est-à-dire, on forme des gens, des personnes, qui ne sont pas plus importantes ou moins importantes que le reste des citoyens, mais qui ont au moins cette fonction sociale de soulever les problèmes, de dire, attendez, là, sur ces questions précises, il y a peut-être matière à débat et à discussion. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des pratiques qui sont injustes. Il y a des institutions qui sont injustes. Et de former, d'un autre côté, de former partiellement, mais tout au moins d'éveiller l'intérêt des étudiants qui ne continueront pas, comme je vous l'ai dit, qui ne deviendront pas des professionnels de ces domaines, mais tout au moins de les éveiller à l'importance des débats démocratique, l'importance des débats politiques, l'importance des débats sociologiques, l'importance des débats en éthique, en philosophie, l'importance des débats sur les accommodements raisonnables, par exemple, sur la justice, sur le multiculturalisme, sur la redistribution des ressources, sur la place de la culture dans une société, et savoir si la culture, si c'est une fonction de l'État et des institutions publiques, par exemple une radio, que de supporter la culture, même si celle-ci n'est pas rentable d'un point de vue financier. Donc tous ces débats, on doit les avoir, nous les avons au Canada, et c'est ce que j'ai remarqué avec cette mise à distance. C'est-à-dire, j'étais très fier de mon pays, de mon pays et de ma province d'élection, nommément le Canada et le Québec, parce que à distance, je voyais, je me souvenais des débats qui ont eu ou qui ont lieu. Actuellement, au Canada et au Québec. Bon, bien entendu, tout n'est pas rose dans ma région d'élection. Ça, j'en suis bien content, comme dans tous les... Et ça, j'en suis bien conscient, comme dans tous les pays. Mais tout au moins, à distance, on se rend compte de cette chance. De cette chance d'avoir des gens, des personnes qui sont capables de prendre la parole. De prendre la parole sur les ondes radio diffusées, à la télévision, dans les journaux, et d'amener le débat, d'amener la contradiction, et même d'amener la contradiction face au gouvernement. Chose qui est dimension du débat public, dimension de la vie démocratique qui est peu présente, il faut le reconnaître, dans un pays comme la Lettonie. Donc c'est ce que cette expérience de l'étrangeté m'a amené. C'est-à-dire que en étant étranger dans un pays qui n'est pas le mien, vous avez toujours cette qui peut être très très souvent trompeuse, mais vous avez cette position un peu extérieure qui vous permet, moyennant un minimum d'implication, de curiosité intellectuelle, qui vous permet de saisir, et là pas tant des choses sur le pays dans lequel vous êtes, mais sur le pays que vous venez de quitter. Et c'est donc ce mois de juillet a été fascinant pour moi, je vous le dis. Hormis premièrement pour cette impression de dépaysement architectural, physique, c'est-à-dire qu'au quotidien, Riga a cet aspect inachevé, cet aspect de cité dont l'âge d'or est derrière elle, alors que c'est faux. Mais vous avez un peu un sentiment pas de fin du monde, mais un sentiment de, sans que ça induise un jugement moral, d'une certaine déchéance assumée par la ville. Bon, bien entendu, c'est pas Kaliningrad, mais tout au moins, c'est ce qui marque les gens qui vont à Riga. Il y a un peu cette mélancolie ambiante. Et donc, dépaysé, je vous disais, expérience du dépaysement d'un point de vue physique, mais expérience du dépaysement intellectuel pour retrouver, mieux retrouver quelque chose que j'avais tendance à oublier, qui est l'importance du débat démocratique et qui est surtout la responsabilité, peut-être pas collective, peut-être pas, je laisse la question ouverte, mais la responsabilité qu'a toute société à l'égard de ses citoyens de fournir les conditions minimales, tout au moins, pour l'émergence et la perpétuation d'un débat public, d'un débat démocratique.